Coup de projecteur. S'informer, se former, se perfectionner.
Bonjour, donc je suis Bruno Wach, je suis le chef de service ressources et risques environnementaux à l'INSEED Montpellier, en charge du chef de filât sur la transition écologique. Et vous allez assister à une interview du groupe Ricochet, solliciter Daniel Favre hein, pour une interview sur l'intelligence collective dans le cadre des RNIT qui ont lieu à Metz. Alors le groupe Ricochet, c'est quoi? C'est un collectif de directeurs territoriaux, donc plutôt dans le milieu de l'environnement, des milieux naturels, du développement durable, que l'on a réunis pour pouvoir travailler avec nous sur les formations dédiées à la transition écologique. On avait un itinéraire il y a quelques années au CNFPT qui était dédié à cette question-là pour les directeurs d'environnement, mais en travaillant avec le groupe Ricochet, on s'est rendu compte qu'il y avait aujourd'hui des questions qui n'étaient pas traitées, la question de la transversalité, de la complexité, de la prospective territoriale, du rapport aux élus. Et donc on a cheminé avec eux pour concevoir des nouvelles formations, un nouvel itinéraire, et pour qu'ils puissent aussi s'impliquer dans l'animation de ces formations à travers des méthodes d'animation renouvelées, hein, que ce soit le co-développement, le théâtre forum, puis d'autres méthodes aussi qui font appel à l'intelligence collective. Et donc je vais tout de suite passer la parole à Michel Pierre qui va poser la première question à Daniel Favre.
Bonjour Bruno, merci beaucoup et c'est parti.
On remercie Bruno de son intervention sur la présentation de l'équipe Ricochet. Et donc on va passer maintenant à l'interview de Daniel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence T à l'occasion des RNIT organisées à Metz les 12 et 13 mai 2022. Nous avons l'occasion de recevoir Daniel Favre qui est professeur des universités honoraires en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier, formateur à l'Institut de recherche d'information biosociale. Daniel Favre, bonjour.
Ben bonjour à tous et merci pour cette occasion de pouvoir finalement parler de...
Parler d'intelligence collective. Alors nous, on a été très très interpellés par cette notion qui anime de manière transversale la vie dans les collectivités, en tout cas qui interroge dans les collectivités, et on voulait avoir un peu vos éclaircissements sur cette notion.
Oui, ce que je peux en dire, c'est que ma première formation, c'est d'être biologiste et neurobiologiste. Donc l'intelligence collective, je la vois dans le domaine de la vie, elle est omniprésente. C'est l'aptitude à faire des choix justes. Nos cellules en sont capables. Je pense à la cicatrisation, où les cellules qui ont toutes la même information pour faire un autre organisme identique à nous, quand elles cicatrisent la peau, il n'y a pas de cellules de foie, il n'y a pas de cellules osseuses ou des neurones qui sont là, il y a juste la peau et qui est reconstituée comme elle était avant. Quelquefois, il y a des cicatrices, mais la plupart du temps, il n'y en a même pas. Donc cette intelligence, on peut la voir à l'œuvre au niveau de notre corps, formé de 50 000 milliards de cellules qui vivent ensemble, qui vivent à profit mutuel. Et là, seul échappe à l'intelligence collective des cellules qui se développent pour leur propre compte, qui sont des cellules qui peuvent devenir plus ou moins éternelles d'ailleurs, et on les appelle cancéreuses. Et ces cellules inventent un peu la bêtise collective, parce que en faisant ça, elles vont se suicider à terme, sauf si elles sont cultivées dans des boîtes de pétri dans un laboratoire, où on a des cellules qui datent de 100 ou 150 ans, qui se sont multipliées alors que le donneur est décédé depuis longtemps. Et elles sont suicidaires dans la mesure où, ayant épuisé les ressources du corps, elles vont elles-mêmes disparaître, quoi. Mais elles ont vécu un temps où elles pouvaient, en quelque sorte, vivre sans cette intelligence collective, c'est-à-dire sans un rôle qui soit compris dans le fonctionnement global de l'organisme que nous sommes.
Mais en ont-elles conscience ?
Alors, c'est là que l'être humain a une carte à jouer, qu'il a, au cours de l'évolution, une structure nerveuse qu'on appelle les lobes frontaux, qui nous permettent d'avoir conscience de nous-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire que les animaux ne l'ont pas du tout, ça veut dire que chez nous, ça s'est développé un peu plus que pour les autres mammifères. Et donc, l'intelligence collective, maintenant, elle est possible pour l'être humain sans qu'il en ait conscience. par exemple ceux qui ont construit des cathédrales, étaient dans cette intelligence collective. Ceux qui ont construit des barrages hydroélectriques, également. Ceux qui ont construit le viaduc de Millau, pour ceux qui connaissent, c'est aussi de l'intelligence collective. Un sous-marin nucléaire, c'est aussi, la construction d'un sous-marin nucléaire est aussi l'intelligence collective. Mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à en prendre conscience. Parce qu'il y a des moments où l'espèce humaine est, elle aussi, dans la bêtise collective. L'incapacité en 2008, par exemple, de partager la récolte de riz, qui aurait fait à peu près 350 grammes de riz complet et par habitant de la Terre, a été rendue impossible et s'est transformée en famine pour un grand nombre, parce que des petits malins ont spéculé sur le prix du riz, ce qui fait que, pour d'autres, le riz devint trop cher, il ne pouvait plus l'acheter, quoi.
Et cette conscience est-elle empêchée par des jeux de pouvoir?
Alors...
C'est pas ça qu'on avait dit. On n'avait pas dit que les jeux de pouvoir étaient importants. On avait dit qu'il fallait surtout pas parler de jeux de pouvoir parce qu'on était dans les collectivités territoriales. Parce que...
Bah oui, évidemment, quand même. Il n'y a pas de jeux de pouvoir dans les collectivités. On est quand même assez tranquille. Voilà, chacun a sa place. On a des élus qui se comportent bien, des administrations qui sont adaptées, justement, et qui nous font travailler en intelligence collective. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, Philippe?
Et puis, on n'a pas de problème de ressources, en plus. Donc...
Bah non, mais des fois, des problèmes de légitimité. Je suis désolé, là, vous m'avez piqué
si
le micro.
Si je peux intervenir...
Non, mais attends, on va laisser la parole. Allez-y, monsieur Favre, reprenez.
Si je peux intervenir, je dirais que chacun a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Qu'avec le cerveau que nous avons, il ne peut pas en être autrement.
Tu vois, je te l'avais dit.
Alors, bonne raison, ça ne veut pas dire des excuses. Mais ce qui va être important, c'est d'arriver à prendre conscience de ce que nous faisons, notamment que quand nous pensons, est-ce que nous arrivons à ressentir ce que nous pensons? C'est-à-dire, est-ce que nous arrivons à ressentir, finalement, quand notre pensée s'ouvre, se laisse déstabiliser, se laisse critiquer? Et à d'autres moments, cette même pensée que nous avons, au contraire, elle se referme, elle se dogmatise, elle se simplifie. Et à ce moment-là, si l'autre qui est à côté de nous pense la même chose, ça va bien, c'est un copain, c'est un ami, je t'aimerai toujours. Mais si jamais cette certitude qu'il a sur le moment diffère de notre certitude à nous, alors c'est là que les bouquins d'histoire ont été écrits, puisque c'est l'histoire de gens qui pensent pas pareil et avec toujours un qui veut imposer sa pensée à un autre.
Vous avez parlé tout à l'heure de cellules cancéreuses, de ressources et de morts par manque de ressources. Comment l'intelligence collective pourrait arriver à faire prendre conscience à l'humanité de la limite des ressources?
Bien, je crois que les êtres humains sont équipés pour résoudre des problèmes... des problèmes compliqués, des problèmes complexes, des problèmes pour lesquels on peut même pas imaginer comment quelqu'un au 19e siècle pouvait imaginer qu'on pourrait envoyer sur une comète à des milliards de kilomètres un objet avec un petit ordinateur pour faire des prélèvements. C'est quelque chose d'inimaginable à l'époque. Donc je propose de garder à l'esprit que les problèmes que l'humanité peut résoudre, c'est immense. Mais
je t'avais bien dit, Michel, que la réponse était la technologie. Tu vois bien? Et on dit qu'on est capable de tout faire, donc la technologie, c'est la réponse à tout.
Sauf qu'actuellement, c'est pas au niveau de la technologie qu'il y a un manque, c'est au niveau de se mettre d'accord autour d'une table, en tant qu'être humain, pour désigner le problème que nous avons collectivement à résoudre, pour rester, nous et nos enfants, en vie sur cette planète. Et il y a en 2015, le directeur de la compagnie d'assurance AXA disait que un monde dont la température globale moyenne s'élèverait de plus de 3 degrés devient un monde qui n'est plus assurable. Or, ces gens-là, ils sont bien au fait des risques, du coût des choses. Et si on arrive à se projeter dans cet avenir-là et à se dire comment permettre aux écosystèmes qui nous ont engendrés et qui nous permettent d'être encore en vie, et ainsi que nos enfants et nos petits-enfants, comment permettre collectivement, par nos activités, de résoudre simplement ce problème de survie sur cette planète en respectant nos écosystèmes.
Entendu. Bon, maintenant que vous avez tous compris que mon point de vue vaut autant que le vôtre et qu'il enrichit le débat, je reviens sur ma question du pouvoir. Le directeur d'AXA s'autorise à parler parce qu'il est directeur. Comment, dans un groupe d'intelligence collective, quand on est dans des jeux de pouvoir, on arrive librement à pouvoir exposer ses ressentis, exposer ses émotions dont vous nous avez longuement parlé, et du coup enrichir vraiment le groupe? Est-ce que c'est facilitant? Et sinon, comment s'en sort-on?
Ma réponse, elle est quand même toujours la même, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui se passe en nous. Donc arriver bien à bien se connaître, et en particulier constater comme c'est jouissif d'avoir raison. Et pour avoir raison, qu'est-ce qu'on serait pas prêt à sacrifier? Il y a un auteur là d'épistémologie qui disait, c'est un pseudonyme, c'est Jacques D'Artan, qui disait « périssent mes enfants plutôt que mes idées ». Ce qui peut montrer qu'on peut être addictif à ses propres idées. Et donc cette difficulté-là, quand on a des formations organisées, c'est à prendre en compte cet aspect-là, le porter à la conscience, et en disant « est-ce que ce plaisir-là, tu peux le différer de 5 minutes, le temps qu'on puisse se parler et entendre autre chose ?» Et accepter qu'on ne soit pas pareil, et que d'être pas pareil, ça veut dire une possibilité de s'enrichir. C'est pas toi qui meurs parce que je pense pas la même chose que toi.
Oui, mais en même temps, dans un taxi pour Tobruk, Lino Ventura dit deux intellectuels qui réfléchissent vont moins vite qu'une brute qui avance. Est-ce que là, aujourd'hui, on n'est pas dans l'obligation d'agir vite, et donc d'agir en brute par rapport à ces urgences?
Ça risque de nous mener loin, cette idée que... sous l'effet de l'urgence, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc il faut quand même des gens qui réfléchissent. Quoi. Et je sais pas, il y a des gens qui préconisent de récupérer le CO2 une fois qu'il est émis, et pendant ce temps, en Chine, on continue à multiplier la défossilisation du carbone. J'ai l'impression que ça serait bien qu'il y en ait deux qui réfléchissent et qui puissent communiquer aux autres que peut-être, si on diminuait la défossilisation du carbone, on améliorerait grandement les choses. Et ça, c'est tellement bête que les termites font ça depuis 80 millions d'années. Hein. Elles régulent leur termitière à 27 degrés, quelle que soit la température externe dans le Sahel, c'est pas rien ça. Et sans consommation d'énergie fossile ni de radioactivité difficile à gérer une fois qu'elle est produite.
Vous nous parliez du climat, d'AXA, finalement de la survie qui est en jeu. Est-ce à dire qu'il faut forcément une crise pour commencer à être intelligent ensemble?
On aurait pu éviter ça si dans nos écoles, les valeurs et les missions des enseignants étaient respectées et traduites en actes. La première des missions des enseignants, et là je parle des textes officiels, rappelés la dernière fois en mars 2015, c'est la formation de la personne. C'est de permettre donc à des élèves de devenir des adultes capables de s'autoréguler, capables de vivre en harmonie avec les autres et avec l'environnement, capables de penser par eux-mêmes, recherchant la critique plutôt que la fuyant comme les vampires fuient les gousses d'ail. Mais ça, c'est pas traduit en actes. La science, elle commence quand il y a un maître qui s'appelle Thalès, et là je vous parle de 6 siècles avant Jésus-Christ, qui est un élève qui s'appelle Anaximandre. Et les élèves qui se taisaient jusqu'à présent, dit la légende, vont laisser la place à un élève, Anaximandre, qui critique le discours de Thalès. Et là, la révolution scientifique et philosophique, c'est Thalès va dire 2 choses. Il va lui dire « c'est intéressant », il va lui dire « continue ». Ça veut dire que plutôt que de conserver des vérités et des certitudes, c'est plus intéressant de remettre en question ce qu'on pense pour le faire évoluer. Et la science et la philosophie sont nées là. Et tant qu'il y aura encore un peu de liberté, la science et la philosophie vont pouvoir continuer à faire avancer l'humanité. Ça veut dire rechercher la critique plutôt que de la fuir. Ça veut dire développer une sécurité affective et cognitive qui ne soit pas fondée sur conserver des certitudes et tirer sur tout ce qui bouge qui pourrait les remettre en question, mais au contraire de devenir capable, sans malaise excessif, de faire évoluer sa pensée au fur et à mesure que le réel nous envoie des informations comme quoi ce qu'on est en train de faire est décalé par rapport à lui.
Est-ce à dire que l'intelligence collective, c'est la nouvelle obligation démocratique? C'est-à-dire que vous avez parlé de liberté, on est dans un monde, on va dire, plein d'incertitudes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le nouvel horizon de la liberté de l'humanité, c'est cette capacité à faire chemin d'une manière collective pour résoudre ces problèmes, pour faire face à ces problèmes?
Alors il y a 2 sortes d'incertitudes, celle de se dire qu'est-ce qu'il va dire Biden, Poutine, Macron, etc. Et puis l'incertitude fondamentale du réel, qui est d'être au-delà des disciplines, qui est d'être complexe et qui contient quelque chose qui est justement du domaine de l'imprévisible, où les algorithmes ne sont pas capables de prévoir ce qui va se passer. Il y a de l'inattendu dans ce qui se passe là. Donc l'éducation que j'appelle de mes voeux, c'est une éducation qui permettrait de se sentir à l'aise dans un réel qui est forcément non prévisible.
Et le plaisir dans tout ça ? Je m'explique, on construit avec d'autres des formations dans des cycles de cadre de l'environnement où on déconstruit quelque part les modes de faire, où on apprend à exprimer ses ressentis, à expérimenter le fait qu'on est enrichi des points de vue des autres. Et le peu de formations qu'on a déjà organisées sur ce modèle nous montre un grand plaisir des stagiaires à leur sortie. Est-ce que c'est un moteur dans l'intelligence collective ?
Alors, je me réjouis de cette question, parce qu'effectivement, c'est le fond de l'affaire. Si cognition et émotion et ressenti fonctionnent ensemble et ne peuvent pas être dissociés dans notre cerveau, ça veut dire que ce qu'on ressent est essentiel pour motiver nos actions. Jusqu'à présent, le modèle que nous avions, qui est dominant un peu de partout, avec la publicité, avec la politique, et malheureusement dans l'éducation nationale, c'est le modèle behavioriste. C'est-à-dire, autrement dit, carotte et bâton. Et on pense qu'avec cela, on a tout dit de l'être humain, mais les faits montrent que ça ne marche pas forcément comme ça, qu'il y a quelque chose qui résiste chez l'être humain. Et je voudrais juste donner un chiffre, qui est le chiffre de 500 milliards de dollars, qui est les dépenses annuelles en Amérique du Nord et en Europe, 500 milliards de dollars pour la publicité. Et on constate que sinon, les êtres humains, enfin de cette partie du monde, les autres n'ont pas les moyens, vont se mettre à moins consommer. C'est-à-dire, c'est comme s'ils ressentaient davantage leurs plaisirs fondamentaux, ce qui est important pour eux, et se font pas prendre dans cette espèce de plaisir addictogène d'avoir toujours plus et toujours plus et toujours plus. Regardez, souvent quand quelqu'un a 1 million de dollars, il a envie d'en avoir 10, puis 1000, puis etc. Et si avec 1 000 millions de dollars, c'était suffisant, mais non, il en faut plusieurs milliards, etc. Vous regardez donc quelques milliers de personnes sur la planète qui sont dans un cycle addictogène comme ça, qui va mettre le reste du monde en situation de grande pauvreté et d'incapacité à changer parce que nous sommes transformés en consommateurs compulsifs. Mais dans la nature humaine et dans sa biologie, il y a aussi un grand plaisir à résoudre des problèmes. Il y a un grand plaisir à se laisser transformer dans la relation avec les autres et des autres différemment de nous. Donc on peut avoir du plaisir de voir que quelqu'un partage mes pensées. Je peux en avoir du plaisir. Et puis, je peux avoir un autre plaisir de quelqu'un qui pense autrement que moi. Et j'espère que je vous procure ce plaisir, vous qui êtes à l'antenne. Parce que c'est une occasion d'explorer le réel d'une manière différente que celle que j'avais jusqu'à présent. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir des relations transformatives, dont l'intelligence collective est vraiment l'outil fondamental. C'est-à-dire, dans l'intelligence collective, chacun va se transformer et il s'agit d'accepter le plaisir de se laisser transformer justement dans cette relation, mais qui n'est pas le plaisir de consommer de manière addictive ou juste le plaisir d'être tranquille dans le connu, dans ce que je sais déjà faire. Donc là, j'ai parlé de 3 sortes de plaisirs différents et il est vraiment primordial que l'enfant, dès le plus jeune âge, apprenne à distinguer ces 3 types de plaisirs pour résister aux emprises.
Et c'est-à-dire que l'entrée vers cette porte des plaisirs, elle passe par la gestion du temps. On parle de slow politics, c'est-à-dire des politiques publiques qui prennent le temps de mettre en œuvre des choses. On parle de slow food, etc. On parle de mobilité qui prennent plus de temps. Est-ce que ce rapport au temps, aujourd'hui, n'est pas constitutif de cette capacité, justement, à lever le pied, à prendre du temps à être ensemble? Donc, est-ce que c'est pas une des portes d'entrée de l'intelligence collective?
Oui, dans ce cas-là, effectivement, on voit que l'état d'urgence, qui est mis un peu de partout à toutes les sauces, peut être le moyen pour empêcher l'intelligence collective et diviser les hommes, avec toujours le spectre de la pénurie, le spectre de l'insécurité qui soit derrière. Et l'intelligence collective, elle a besoin de temps pour s'installer, tout simplement parce qu'on n'apprend pas à la même vitesse. Même si l'école actuelle conserve cette illusion que tous les enfants doivent apprendre la même chose en même temps, au même moment, pour être capables d'être contrôlés au même moment, ça c'est l'illusion qui dégoûte beaucoup d'élèves de l'apprentissage, qui emmène de l'échec scolaire de l'ordre de 100 000 enfants par 100 000 jeunes qui, chaque année, quittent le système scolaire sans aucune qualification, avec en plus l'idée qu'eux-mêmes, ils valent rien, avec une mauvaise estime de soi. Il s'agit de rouvrir des moments des moments de temps où on peut se tromper, recommencer, avoir tort, se remettre en question. Et si ça se fait dans l'acceptation des personnes, j'ai un postulat qui s'appelle un postulat de cohérence, c'est-à-dire penser que chacun a des bonnes raisons, ce que j'ai fait tout à l'heure avec vous, de penser ce qu'il pense. S'il y a cette sécurité affective qui est là, à ce moment-là, on peut prendre le risque de l'apprentissage, c'est-à-dire le risque de la déstabilisation cognitive qui nous permettra d'avancer, de remettre en question ce qu'on pense. Mais il faut d'abord faire en sorte de ressentir que les personnes sont acceptées, qu'elles sont importantes, toutes importantes. Et rappelez-vous, les gilets jaunes, ils disaient au début « on existe, on est là ». Vous nous aviez oubliés, maintenant, voyez, le jaune y soit.
Daniel, vous êtes foncièrement optimiste. C'est-à-dire qu'on sent de l'énergie, on prend plaisir, on a le sourire. Ça s'entend peut-être à la radio, mais on a vraiment le sourire en vous écoutant et en partageant ce moment. On n'est pas que dans cet état d'esprit-là. On rencontre au sein de nos collectivités des élus, des collègues qui nous disent « l'intelligence collective, c'est n'importe quoi. Face au changement climatique, de toute façon, c'est mort déjà, c'est fini ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire justement par rapport à cet optimiste qui n'est pas un optimiste béat, ce qui est justement cette volonté de dire oui, le changement est possible et l'intelligence collective fait partie justement des changements de posture qu'on peut avoir pour pouvoir arriver à faire face à ces défis.
Pourquoi je suis optimiste? C'est parce que je suis émerveillé quand je vois les ressources de la vie et par exemple le virus Omicron, il est marrant ce virus parce qu'il est extrêmement contagieux. Donc, je pense que la plupart des humains vont choper le Covid, que cette information-là va s'intégrer dans notre ADN. On a 8% de notre ADN qui vient de rétrovirus. Et nos grands-mères, si elles n'avaient pas été infectées par un rétrovirus, elles n'auraient pas de placenta et elles pondraient des équivalents de œufs comme les reptiles et les oiseaux. Ça, c'est pour le côté optimiste, c'est-à-dire je fais confiance à la vie. Et la première chose, je pense, à faire par rapport à ces élus dont vous parlez, c'est d'utiliser le postulat de cohérence et de le faire comme des scientifiques. C'est-à-dire, je vais l'utiliser, il est libellé, chacun a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense, de dire ce qu'il dit, de faire ce qu'il fait, et surtout de ressentir ce qu'il ressent.
Donc c'est-à-dire, là je vous fais reformuler, Daniel, le postulat de cohérence, c'est-à-dire d'être en capacité d'expliquer à notre interlocuteur, qui est notre commanditaire, c'est-à-dire l'élu, que là, ce qu'on aimerait créer avec lui dans la relation interpersonnelle qu'on a, c'est-à-dire de dire, je veux qu'on essaye de discuter ensemble des choses que l'on partage, mais aussi qui nous différencient, et de se mettre sur certaines postures.
Non, c'est pas tout à fait comme ça que je le voyais. Je voyais d'utiliser le postulat de cohérence un peu comme un apéritif. C'est-à-dire, voilà, on est réunis autour d'une table, dans cette salle, avec des idées différentes, puisqu'on est tous différents. Et je voudrais d'abord affirmer haut et fort, nous avons des bonnes raisons de penser ce qu'on pense. Alors, c'est juste une partie du postulat, mais ça veut dire aussi qu'en faisant cela, on est en train d'accepter toutes les personnes qui sont là. On n'est pas en train de faire un tri en disant « il y a les gens bien qui pensent comme moi, puis les autres ». Et j'ai rencontré un Amérindien avec qui j'avais une discussion sur les origines de la guerre. Et parce que il parlait de nous, les Européens, comme des envahisseurs, ce qu'on a été, mais en disant, je dis, mais je trouve tellement simple, ça a été tellement facile de vous vaincre, et vous étiez déjà en désaccord entre vous-même comme ça. Et là, il a changé de ton, il a dit, c'est vrai qu'on était en guerre les uns contre les autres, et le jour où les guerres ont commencé, dit la tradition orale, parce qu'au niveau de l'écrit, il n'y a pas grand-chose, la tradition orale dit que les guerres ont commencé quand on a appelé les gens du village là-bas, les autres. Voilà, et c'est chez nous, les mots que nous utilisons sont des théories, sont les équivalents des applications qu'on met dans un ordinateur. Parce que dans la mesure où il y a les autres, où il y a les gentils, il y a les méchants, il y a le vrai, il y a le faux, toutes ces catégories-là de simplification du réel vont nous retomber dessus. Donc, dans une réunion, et pour vous, de pouvoir dégainer le postulat de cohérence, extrêmement important en tant que scientifique dans cette affaire, parce que vous pouvez noter ensuite, si vous y croyez vraiment que les autres ont des bonnes raisons, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe également si vous, dans votre fort intérieur, vous y croyez pas? Et là, vous devenez des expérimentalistes, et vous pouvez choisir après ce que vous voulez. Et ça, vous pouvez l'essayer... En sortant de cette pièce, vous rencontrez quelqu'un, et vous pouvez aussi le formuler intérieurement sans l'exprimer, et vous pouvez aussi le dire dans la totalité. Vous pouvez en citer que tu as des bonnes raisons de ressentir ce que tu ressens.
Bien, Daniel Favre, nous vous remercions. Merci à tous. Un petit dernier mot pour la fin.
Rappelez à tous nos auditeurs que Daniel Favre est auteur de livres et de publications intéressantes, notamment hein, puisque vous parliez d'addiction, l'addiction aux certitudes. Hein, justement, vous aviez une publication là-dessus qui était particulièrement intéressante. L'éducation à l'incertitude aussi hein, au niveau de l'enseignement. Donc je pense que cette question d'incertitude, d'intelligence, c'est intéressant aussi. Et puis reconnecter l'école au vivant et reconnecter l'école au réel, vous nous parliez de ça. Donc vous pouvez retrouver un certain nombre de publications de Daniel Favre et notamment le CNFPT se fera le relais de vos publications. En tout cas, on vous remercie beaucoup de vos interventions.
Et puis il y a un dossier également sur le site École Changer de Cap.
Merci.
L'émission touche à sa fin. Au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Monsieur Favre, merci beaucoup et à bientôt.
Eh bien, merci à vous également pour vos réflexions, pour vos questions, pour ce que j'ai appris de ce que vous faites, des activités que vous avez, des formations d'adultes finalement différentes que vous proposez, mais qui vont bien dans le sens du développement de cette intelligence collective dont nous avons tellement besoin sur cette planète. Pour y rester.
Coup de projecteur. S'informer, se former, se perfectionner.